Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hello, c'est Constance. Je vous délivre juste un petit message avant la diffusion de l'épisode « Pas de panique, il arrive ». Si vous êtes déjà là, c'est que vous êtes consommateur de podcasts. Alors je vous propose que juste avant certains de mes épisodes, je vous présente une recommandation d'écoute. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler des podcasts d'Anne Fleur, et plus précisément de « Alors c'est pour bientôt », le podcast qui libère la parole autour de l'accès à la parentalité et qui lève le tabou sur la fertilité. Avouez qu'on est dans le thème. Anne Fleur, vous l'avez déjà entendu par ici. Si, si, rappelez-vous, dans l'épisode 14 de la saison 1, elle nous levait le voile sur l'accès à la PMA aux USA. J'adore son podcast parce qu'on y traite aussi bien de parcours que de techniques en détail. C'est hyper rassurant de savoir à quoi s'attendre quand on entre en PMA et surtout de se savoir tous sur un même pied d'égalité. Vous m'en direz des nouvelles. Maintenant, place à l'épisode.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground.
Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez la première partie de l'épisode 9 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. Première partie, car une autre petite nouveauté, afin de pouvoir vous proposer de me retrouver chaque semaine, je vais partager les épisodes de témoignages en deux parties et vous laisser mijoter un petit peu pour découvrir les histoires de chacun. Ce n'en sera que plus savoureux. Suis-je diabolique ? Aujourd'hui, je vais vous parler d'allaitement induit, un terme encore assez peu vulgarisé. Pour ma part, j'y avais assimilé, comme beaucoup je pense, ces histoires de nourrices qui allaitaient des enfants qui n'étaient pas les leurs, bien souvent parce qu'elles étaient mères allaitantes aussi. J'ai aussi dû faire des amalgames par méconnaissance, je dois bien l'avouer, avec des histoires extraordinaires d'enfants ayant survécu à la perte de leur maman grâce à un allaitement intrafamilial ou intracommunautaire. Alors que réside dans ce simple terme la capacité extraordinaire de la femme à produire du lait pour un enfant qu'elle n'a pas porté, qu'elle en soit parent ou non. Je me souviens m'être dit que je n'allaiterais pas, car je souhaitais laisser une place à part entière à ma femme et que l'allaitement me semblait exclusif. Pauline et Chloé ne se sont pas embarrassées de ces codes-là. Sans vraiment l'avoir anticipé, à l'instinct, elles ont proposé leur sein à leur fille Esmé, qui a été co-allaitée pendant 5 mois. Si vous ne les connaissez pas encore, vous pourrez les découvrir sur le compte de la magnifique @tajinebanane, qui a mis cette famille et leur allaitement en lumière et qui, de manière générale, fait briller les mères allaitantes. Je n'ai pas pu détacher mes yeux de leurs photos, et c'est à ce moment-là que j'ai conscientisé le terme d'allaitement induit, que j'en ai compris les fondements et que j'ai rêvé d'un monde informé qui m'aurait permis de tester cette relation si particulière. Alors aujourd'hui, je vous propose le témoignage de ces deux mamans, témoignage qu'elles ont bien voulu me délivrer, justement pour informer, pour démontrer la faisabilité de ce mode d'allaitement sans protocole médical, et prouver que même au feeling, ça fonctionne si l'on écoute ses envies sans pression. J'ajoute ici que les papas peuvent aussi être concernés par un allaitement induit. Je le pose pour ouvrir à la réflexion. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pauline, bonjour Chloé.
Bonjour. Bonjour Constance.
Je suis vraiment ravie de vous recevoir à mon micro aujourd'hui et je vous remercie beaucoup de vous être rendue disponible. J'ai découvert votre histoire sur le compte Instagram de Tajine Banane, si je ne me trompe pas. Et franchement, votre histoire, vos photos m'ont touchée. Vous êtes passée plusieurs fois, je crois, sur le compte Instagram de Tajine.
Ouais.
Donc, pour préciser, Tajine Banane, c'est une marque de vêtements d'allaitement. Et elle a parlé de vous parce que vous avez mis en place un allaitement induit dont on parlera un peu plus tard dans l'enregistrement. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et me présenter votre famille ?
Alors moi, je suis Pauline, je suis bibliothécaire, j'ai 34 ans et je suis mariée avec Chloé et maman de Esmé depuis juin 2020.
Esmé qui a un très joli prénom, je dois le dire.
Merci,
merci.
Peu courant, mais enfin, moi, il me parle beaucoup. Et Chloé, du coup ?
Et oui, du coup, je m'appelle Chloé, je suis chef de service dans l'administration. J'ai 33 ans et je suis mariée avec Pauline, maman d'une petite Esmé. Donc.
Tout à fait. Et alors, vous m'appelez d'où, là, aujourd'hui ?
De notre appartement parisien.
Donc, sur Paris, vous êtes sur Paris,
ouais,
voilà,
ouais, c'était, ouais.
Ça. C'était celui-là, ma question.
Mouchoir de poche parisien.
Oui, ah mince, avec un petit bout, ça doit être un peu compliqué, non ?
Moi, elle est toujours à portée de main, c'est pratique.
Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, impeccable. Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous vous êtes rencontrés et quand est arrivé le désir d'enfant ?
Alors, on s'est rencontrés en 2011, en octobre 2011. On s'est rencontrés à l'université.
D'accord.
On a toutes les deux suivi un diplôme en droit cette année-là. Et moi, j'étais en couple depuis longtemps. Louis allait se mettre bientôt en couple. Et on est devenus amis, en fait, à ce moment-là. Moi, je l'ai tout de suite trouvée très belle. Je l'ai remarquée de très loin. Dans la cour de l'université, j'ai pensé qu'elle était hétéro. Erreur de débutante.
C'était ton genre à cette époque.
C'est vrai. Et du coup, on est restés amis pendant de nombreuses années, chacune dans notre histoire, dans nos histoires respectives. Moi, je me suis mariée de mon côté. Chloé, elle est restée en couple aussi avec sa copine. En fait, en 2016, je suis revenue à Paris pour prendre un poste, parce que j'avais eu un concours. Et Chloé habitait Paris, et du coup, notre amitié s'est un peu renforcée à ce moment-là, on va dire. Et on a appris à mieux se connaître, parce que jusque-là, c'était une amitié lointaine.
Puis c'est parti de là.
D'accord.
Et du coup, on est ensemble depuis novembre 2017.
Voilà.
Novembre 2017, d'accord. Et donc, tu étais mariée, donc tu avais une histoire à clôturer peut-être, même sûrement. Enfin, ou alors, tu es revenue sur Paris, ton histoire était terminée.
Non, c'était pas terminé. C'était une relation à distance, du coup, puisque mon ex-femme était sur Lyon à ce moment-là. C'était assez difficile, du coup, du fait de la distance. J'ai réussi à retourner en province brièvement en 2017. Et en fait, ça n'allait déjà plus très bien. Avec mon ex-femme. Et effectivement, il fallait revenir en province, il fallait en passer par là pour essayer des choses qui n'ont pas fonctionné. Et voilà, j'ai aussi essayé de tomber enceinte dans ce cadre-là, ce qui n'a jamais marché. Mais bon, le contexte était quand même très particulier. On a fini toutes les deux nos histoires.
Et je suis arrivée là-dessus, quoi.
D'accord. Et donc, en 2017, du coup, tu me disais, Pauline, à l'instant, que tu avais déjà pensé à la maternité.
Oui.
Comment toi, tu t'étais projetée dans la maternité ? Comment vous avez fait des essais à ce moment-là ? Sur quoi vous étiez arrêtée ? Et sur quoi ça a abouti dans cette maternité-là ?
En fait, j'ai fait des inséminations quand j'étais avec mon ex-femme. Parce qu'on avait un désir d'enfant à ce moment-là, mais depuis longtemps. C'est un peu difficile d'en parler parce que c'était des choses dont je me suis pas trop... Enfin, dont j'ai mis beaucoup de temps à me remettre, les échecs des inséminations.
D'accord.
En fait, j'ai une maladie qui fait que probablement je ne pourrais pas avoir d'enfant. Et du coup, c'était aussi un moment d'acceptation. Et ça a probablement aussi joué dans ma relation avec mon ex-femme. Mais voilà, c'était un moment assez difficile. Et en fait, j'ai voulu des enfants depuis des années, quoi. J'ai jamais envisagé ma vie sans enfant, en fait. Donc ça a toujours été dans un coin de ma tête. Et à partir du moment où j'ai pu l'essayer, je l'ai fait. Je me suis toujours dit que j'aurais des enfants, quelle que soit la manière, j'aurais des enfants en tout cas un jour.
D'accord. Et pour toi, Chloé, c'était latent aussi ?
Moi, ça a toujours été une évidence. Avoir des enfants, la maternité, la grossesse, ça a toujours été une évidence.
D'accord.
Après, c'est un projet que j'ai mené que avec Pauline et qui s'est inscrit que dans notre relation. Avant ça, c'est des choses dont je parlais, mais il n'y a jamais eu rien de concret.
Et du coup, quand vous vous êtes rencontrés, enfin pas rencontrés, mais en tout cas quand vous êtes revus en 2017, où vous avez commencé à construire votre histoire, vous en avez parlé relativement rapidement ou c'est arrivé plus tard?
Non, je crois qu'on a parlé tout de suite.
Tout de suite.
On a toutes les deux passé la trentaine. Hein, faut être pragmatique dans la vie. On a aussi toutes les deux des états de santé qui font que ça peut être potentiellement compliqué. C'est un truc qui est arrivé tout de suite, quoi. Est-ce que l'une et l'autre on voulait des enfants? Et donc la réponse c'est un grand oui. Donc
un grand oui évidemment. Est-ce que vous aviez réfléchi à comment procéder ou pas du tout? Et c'est à ce moment-là que vous avez commencé à vous poser la question.
Je crois que les deux premières années de notre histoire, c'était effectivement une évidence pour nous. La logistique faisait que moi étant retournée en province et Chloé étant à Paris, c'était compliqué et que on voulait d'abord être osés ensemble, quoi, dans la même ville, pour en parler plus concrètement.
Ouais, est-ce que je peux comprendre? T'es revenue à Paris en quelle année du coup?
Je suis revenue à Paris en septembre 2019, il y a un peu plus d'un an.
Ah oui! Ah oui! C'est tout frais.
Oui, c'est tout frais.
Ouais. Vous avez eu une relation à distance dans l'autre sens?
Oui.
Toi en province et...
Parce qu'on aime les choses simples.
Oui.
Et du coup, moi j'ai su que j'allais revenir à Paris en septembre 2019. Je l'ai su en mai, en fait. J'avais confirmation de l'invitation en mai 2019. Donc là, on a pu commencer à discuter, quoi. Outre la logistique, notre souhait d'enfant, et on s'est dit que l'été qui suivait,
on commençait.
On commençait donc à prendre des renseignements. Il fallait tout recommencer depuis zéro. Pour moi, c'était très important.
Oui, oui, bah complètement. C'était un projet de couple,
voilà.
Et avant tout. Hein.
C'est ça.
D'accord. Donc là, on est bien en été 2019.
C'est
hein.
Ça.
Et alors, vous en êtes arrivé à quelle conclusion?
On en est arrivé à la conclusion que Chloé allait essayer d'être enceinte. Tout d'abord, et c'est le plus important, parce qu'elle en avait très envie. Moi, j'ai envie d'être maman, mais pas forcément d'être enceinte. Alors que Chloé, c'était vraiment important pour elle, mais tu peux
je pense que c'était ça. Pour moi, la grossesse, c'était hyper important. J'avais envie de connaître cet état-là. On s'est décidé là-dessus, et ensuite, on a fait des démarches pour s'informer sur le choix de la clinique, et on est allé et on a choisi la Belgique.
D'accord. Belgique, parce que...
D'un point de vue purement pratique, dans le sens où on est parisienne, et que c'est une heure de train, et...
Et c'est francophone.
Et c'est francophone.
Oui. Alors là, je peux comprendre complètement l'enjeu de la langue, hein, soyons clairs. Parce que moi, malgré ma distance, ça a été un des facteurs qui a déterminé notre choix.
Bah, c'est ça, pour des parcours comme ça, c'est quand même hyper spécifique. Donc, vraiment comprendre ce qui se passe, je pense que c'est un peu essentiel.
Oui, non, c'est sûr. Après, bon, voilà, a priori, dans les autres pays, ils ont des traducteurs. Donc, finalement, c'est très rassurant. Et au niveau donc, de la Belgique, vous aviez choisi une clinique précisément?
Non, une des choses qui était importante pour nous, c'était qu'il n'y ait pas d'entretien psy.
D'accord.
À part ce critère-là,
avoir le feeling au téléphone.
Ah oui,
j'ai toutes appelées. Enfin, pas toutes, mais on les a quasiment toutes appelées dans la région de Bruxelles. Mm-hmm. Et c'était ceux qui étaient gentils, quoi. C'était qui finissaient sur la shortlist, il fallait qu'ils soient sympas, quoi.
Bon, après, en Belgique, ils sont quand même hyper sympas,
oui,
franchement, en règle générale, voilà.
C'est vrai.
Et du coup, notre choix a été la clinique Delta, Chirac.
D'accord. Qui est où?
Qui est dans la banlieue de Bruxelles.
Mais ils ont deux centres, un centre à Bruxelles et un centre en banlieue.
Brenalo.
D'accord, ok. Super choix. Et donc, il y a des cliniques en Belgique qui n'ont pas d'entretien psy.
Alors, celle-là, oui, il n'y avait pas d'entretien psy.
Plusieurs, même. Pas forcément, mais c'était vraiment une position de principe pour nous, en fait. Nos parcours sont déjà tellement compliqués et accepter l'idée d'un entretien psychologique, pour nous, ça n'avait pas de sens, en fait. C'était renforcer ce système qui fait que on est dans une situation particulière, on est des familles particulières, ce qui est le cas, mais pas dans le mauvais sens du terme, quoi. Et évaluer notre désir d'enfant, ça ne semblait pas possible, quoi.
D'autant que les cliniques qu'on a contactées par téléphone... J'ai le souvenir de moins deux qui, en me présentant cet entretien psy, ont utilisé les termes « après, on vous donne notre accord ou pas pour la suite ».
Oui, c'est vrai que c'est ce qu'ils emploient comme terme et c'est assez inquiétant.
Bah, c'est ça. Alors peut-être qu'au final, c'est pas le cas et que c'est plus une discussion et qui peut être éventuellement utile. Hein. Mais en tout cas, la façon dont c'est présenté, c'est un peu... un accord, oui ou non.
Ouais, complètement.
Voilà, ce qui était tout ce qu'on voulait.
Et donc là, votre question, quand vous appeliez, vous demandiez s'il y avait un entretien psy ou vous demandiez le protocole?
Tout. On avait une petite liste.
Ouais.
On demandait le protocole, l'entretien psy, l'ouverture le week-end. C'était important aussi pour nous. Alors, je ne sais pas si tout le
fond,
mais c'est vrai que nous, c'était important aussi qu'elle soit dispo 7 jours sur 7 pour ne pas louper un cycle, par exemple.
Mais moi, j'y avais même pas pensé. Hein. C'est quand je me suis retrouvée devant le fait accompli que je me suis dit, mais...
Et ben voilà, je sais pas comment ça m'a fait pour anticiper tout ça.
Mais je pense parce que tu étais déjà passée par là,
oui,
en fait. Et du coup, moi, effectivement, mm-hmm. c'est des questions que je m'étais pas du tout posées.
Posées, oui.
Parce que Pauline était déjà passée par là et savait que potentiellement, c'était intéressant de savoir si c'était possible le dimanche ou pas, quoi.
Mais c'est ça, et c'est pareil pour les jours fériés, parce qu'en fait, oui. moi, je suis tombée sur des jours fériés en Belgique, mais qui sont pas les mêmes qu'en France. Je suis tombée sur des cycles en novembre, et ils ont pas les mêmes jours fériés que nous, parce qu'ils ont pas la même armistice que nous.
Oui, j'avais forcément.
Voilà, c'est exactement ça. Et donc, du coup, bah, y a des fois, on appelle, on tombe sur personne, quoi, ça répond pas, et on se
dit, je pense qu'il faut un petit temps pour comprendre.
C'est ça. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, je vais aller vérifier les jours fériés en Belgique.
Et on demandait les tarifs, bien entendu.
Oui, évidemment.
Ouais, et puis les délais.
Ouais, les délais. Et du coup, ça donnait quoi, là, comme délai sur cette clinique-là?
C'est aussi une des raisons de notre choix. Il me semble avoir appelé en juin. J'ai pu avoir un rendez-vous pour la fin août.
Ah ouais, c'est rapide aussi. Hein.
Sachant que c'était les grandes vacances et que la personne que j'ai eu au téléphone m'a dit qu'en principe, les délais, c'était 2 ou 3 semaines. Mais que là, comme c'était les grandes vacances, les délais étaient un peu allongés.
D'accord.
Donc moi, ce qui me semblait déjà, de juin à fin août, c'était déjà magique, quoi. Enfin,
C'est ça.
Donc et du coup, le premier rendez-vous, donc pour nous présenter le protocole, faire le point des examens, tout ça, c'était fin août. J'ai fait du coup tous les examens pendant l'été et on a pu commencer le cycle suivant, donc en septembre.
Ça a été hyper rapide, en fait.
Ça a été hyper rapide.
C'est le 7 septembre.
Le 17.
17 septembre, l'insémination. Mmh.
On a eu énormément de chance. Mmh. Et oui, c'était le 17 septembre. Et puis, c'était Esmé.
D'accord. Donc, en fait, ça a marché du premier coup. Bon, en même temps, tu me diras, vu les dates, là, quand tu m'as dit que vous aviez commencé en septembre 2019, waouh, ça a été rapide.
Ouais, ça a marché du premier coup.
Waouh, ça, c'est une chance.
Ouais, alors qu'on partait pas gagnante, hein, pour.
Bah oui, si a priori c'est vous aviez des problèmes toutes les deux, c'est pas. Voilà, on dit. Bon.
C'est ça. Et puis, mes résultats d'examen n'étaient pas hyper bons. Et au final, ça a fonctionné, quoi.
Non, c'est génial. Franchement, c'est génial. Quand ça marche du premier coup, c'est tellement magique. Nous, on a eu la chance que ça marche du premier coup pour la première. Et franchement, pareil, avec un terrain très compliqué. Franchement, c'était... Enfin, on n'y croyait pas, quoi. On s'est dit, c'est
ça. Oui, on a eu à peu près la même réflexion. On a dû confirmer mutuellement plusieurs fois qu'on avait bien interprété la même chose des résultats. Et qu'elle était bien enceinte.
Ouais, mais je comprends. Moi, je suis retournée dans le labo pour leur demander de m'interpréter les résultats, quand même. Ça veut dire quoi, en fait?
On aurait pu faire la même, mais oui, parce qu'ils écrivent pas positif ou négatif.
Non, c'est enceinte, pas enceinte, ce serait tellement simple.
C'est clair.
Beaucoup trop simple. Et comment ça se passe, là, pour vous? La grossesse, le début de la grossesse, comment vous commencez à réfléchir peut-être à l'accueil d'Esmé? Enfin bon, vous savez pas encore que c'est une petite fille, mais comment vous êtes projetée dans cette maternité?
Déjà, il a fallu trouver un appartement.
Ah oui, parce que vous aviez pas d'appartement?
On avait mon studio.
D'accord.
Pauline a commencé en septembre son nouveau poste à Paris et elle m'a rejointe dans mon studio. Et donc, on cherchait un appartement à cette période-là.
D'accord.
Mais on s'était pas précipité dans le sens où, sans dire qu'on partait perdante, on se disait que quand même, il y avait peu de chances que ça marche la première fois, même si on y croyait très très fort. Donc oui. On était un poil détente sur la recherche d'appartement. Bon, il y a eu un petit coup de boost là, en septembre du coup. Hein.
Bah oui, c'est clair.
Donc la logistique d'abord, mine de rien. Et je pense qu'il nous a fallu... Enfin, moi j'ai mis très longtemps, tous les jours, mais j'y crois pas, quoi. Enfin, non, c'est trop beau.
C'est clair, surtout sur un parcours d'insémination artificielle, on connaît tous les taux.
Ouais, c'est ça.
Et alors l'appart, vous l'avez trouvé rapidement?
Au final,
15 jours.
Ouais, plutôt rapidement.
Ah oui, d'accord. En fait, quand vous faites les choses, quand vous décidez, ça va vite.
C'est un peu ça, ouais.
Mais je crois que c'est la réputation des lesbiennes d'aller vite dans tout, non? Surtout.
Ouais, c'est ça. C'est carrément ça, mais je voulais pas le dire.
Non, mais c'est vrai, il nous faut souvent beaucoup de temps à la réflexion, mais une fois que c'est décidé, souvent, ça va vite.
C'est ça, on mature longtemps, mais quand on agit, c'est bon.
C'est ça.
D'accord, donc appartement trouvé, vous voilà un peu plus sereine. Est-ce que vous avez réfléchi à un projet d'accueil pour Esmé, un projet de naissance, un projet... Enfin, comment vous avez envisagé cette maternité? Comment toi, du coup, Pauline, tu as vécu cette grossesse, sachant que toi, tu, a priori, ne pouvais pas porter?
Ben, moi, je l'ai vécu... Je t'ai vécu comment, Doudou? J'ai vécu très bien. On a fait de l'autonomie. Chloé m'a proposé, m'en avait parlé avant, je crois. J'avais, comme d'habitude, dit « c'est quoi ce truc ?» Un peu encore un truc ésotérique.
Et donc, la cartésienne du couple, en fait.
Ouais, et la meuf un peu relou en même temps, mais du coup... Je dis non, en général. Après, je me renseigne. C'est pas très bien, faut pas faire ça. Je me renseigne et après, je dis, en fait, c'est pas mal. Je suis plutôt
c'est
d'accord.
C'est pas mal ton truc, je veux bien essayer.
Voilà, donc je veux bien essayer. Et on s'est dit que c'était une belle façon de commencer à faire famille, toutes les trois, en fait, mm-hmm. puisque l'autonomie, ça permet de communiquer, en fait, de communiquer avec l'enfant à venir. Et c'est des séances de préparation à naissance qu'on vit les deux parents. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui se fait à trois, quoi. C'était important.
Mm-hmm. Moi, j'ai un souvenir de la fin de l'année 2019, d'installation dans notre nouvel appartement. Je me souviens avoir été très, très fatiguée en début de grossesse. Mm-hmm. Et puis après, ça a étonnamment bien roulé. Mais c'est un D'accord. peu, de toute façon, le maître mot de cette histoire. Je touche du bois, mais... On part souvent en se disant que ça va être compliqué, et puis au final, ça l'est pas. Et c'est assez surprenant, et du coup, la grossesse, elle s'est très bien déroulée, malgré les craintes qu'on avait, notamment avec mon état de santé. Et l'autonomie, ça nous a vraiment permis de se rendre compte qu'elle était là, quoi.
Ça vous a permis de vous ancrer dans la grossesse, quoi.
Ouais, c'est ça.
À quel moment vous avez entendu parler de l'allaitement induit? Vous avez eu cette idée?
C'est moi, ça.
Et c'est quand l'autonomie, j'ai dit non.
Avant, t'as pas dit oui du premier coup?
Oh non, pas du tout.
Jamais, ce serait trop facile.
Alors, je pourrais pas te dire où est-ce que j'ai entendu parler de ça la première fois. Ça remonte à trop loin. Mais avant même d'être enceinte, il me semble que c'était du coup c'était début d'année 2019. J'en ai parlé à Pauline quand on commençait à parler bébé, en lui disant, je sais pas pourquoi, un jour j'avais décidé de taper ça dans mon portable pour avoir plus d'infos dessus, et je suis tombée sur des études canadiennes notamment.
Ouais, mais t'avais donc entendu déjà le mot, parce que moi j'ai découvert le mot il y a pas longtemps.
Je savais déjà que ça existait. Alors vraiment je sais plus comment, mais. Mais je savais que c'était possible, et du coup, début 2019, alors qu'on parle bébé, je lui dis, au fait, si jamais on décidait d'allaiter, tu sais que c'est possible, que la maman qui n'a pas porté allaite aussi. Par contre, il me semble que c'est un protocole assez compliqué, avec médicalisé, où il faut prendre des médicaments, où il y a des tirages réguliers, enfin un truc quand même un peu lourd, quoi. Mmh. Et globalement, Pauline n'a pas été du tout réceptive à ça. Et du coup, ça en est resté là.
D'accord.
À ce moment-là.
Donc, réflexion.
On en a reparlé quelques semaines avant l'accouchement. Mm-hmm. Parce que... Mais Chloé, tu me dis si jamais... On en a reparlé quelques semaines avant l'accouchement parce que l'allaitement, pour Chloé, ça voulait dire changer son traitement.
Ouais. D'accord.
Et
d'accord.
Moi, je trouvais que c'était trop risqué. Et en même temps, je n'avais pas forcément envie de dire, puisque ce n'était pas moi qui... J'étais malade, mais je trouvais que ça signifiait beaucoup de sacrifices et beaucoup de risques pour Chloé, alors que oui, l'allaitement, ça avait l'air chouette, mais c'était quand même pas vital, quoi.
Oui.
Et là, on en a reparlé, je crois, en disant, de toute façon, si mon nouveau traitement marche pas, peut-être qu'on pourrait reparler de l'allaitement induit pour toi, quoi.
D'accord. Et c'est vrai qu'il y a cette composante-là.
J'étais pas non plus forcément... Forcément réceptive, malgré tout ça. Mais bon, je pense que le fait d'en reparler à plusieurs reprises...
C'était le temps que ça fasse ton petit bonhomme de chemin.
Ah, mais complètement. Et malgré moi, je pense que mon cerveau a assimilé à chaque fois qu'on a évoqué cette possibilité, sans l'envisager de façon concrète ou consciente. Mais clairement, j'avais intégré ça.
Non, mais c'est fou, hein, la puissance du cerveau.
Ouais. Mais d'une façon générale, de toute façon, l'allaitement, ça n'a pas été une évidence. Hein. On arrive là, Esme va avoir 6 mois, elle est toujours allaitée. C'était pas du tout une évidence.
Et c'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Je sais c'est dur, mais je vous laisse doucement infuser jusqu'à vendredi prochain pour découvrir la suite de cet épisode et parler d'autonomie et d'allaitement induit. Si vous souhaitez me soutenir, ou soutenir le podcast, le meilleur moyen est de laisser quelques étoiles, 5 c'est le mieux, sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute. Et j'avoue que je prends beaucoup de plaisir à lire vos commentaires sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontbien. Je vous souhaite une belle semaine. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream. While you watch the speaking words you can't quite comprehend. You ask me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine, just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. I'll hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Less alone.